question. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de Dieu? Est-ce que nous-mêmes déjà avons, comment dire, la prétention d'attendre quelque chose de Dieu? Nous avons vu pour cela que Dieu devait avoir quelques caractéristiques, par exemple qu'il existe. Et nous avons vu par la suite que Dieu est en fait omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir et qu'il a créé l'univers entier, et nous par la même occasion. Donc le deuxième titre que nous avons ce soir, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors là c'est encore plus paradoxal, parce que comment un Dieu qui est si grand, comment un Dieu qui est créateur, comment un Dieu qui a toutes ses caractéristiques, qui est puissant, qui est présent partout, omnipotent, omniprésent, omniscient, peut attendre quelque chose de moi? Moi qui suis sa créature, moi qui suis faible, moi qui ne suis rien. Et on me dit que Dieu pourrait attendre quelque chose de moi. Bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Et pourtant, ceux qui sont pères parmi vous, vous êtes adultes. Et vous avez quand même beaucoup plus de connaissances que vos enfants. Vous avez plus de puissance, de force que vos enfants. Mais malgré cela, vous avez des attentes pour vos enfants. Vous voulez que vos enfants correspondent, vous obéissent par exemple. Vous avez envie qu'ils travaillent bien à l'école. Vous avez envie de les voir s'épanouir, de les voir venir, mûrir, et qu'ils puissent, à l'état d'adulte, arriver à des hommes qui soient, je dirais, le plus parfait possible. Alors pourquoi est-ce que Dieu, qui est en fait notre Père, vu qu'il nous a créés, n'attendrait pas la même chose de nous? Alors ce soir, bien sûr, ce n'est pas moi qui vais répondre à ces questions, mais nous avons notre conférencier, Jan Opsitch, que nous avons eu déjà le plaisir d'entendre hier soir, et qui ce soir encore va, je pense, nous captiver, va nous présenter cette étude, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Jan Opsitch est évangéliste depuis maintenant 28 ans. Cela fait 20 ans que je le connais, et j'ai toujours autant de plaisir, je dirais, à l'écouter. Jan a écrit plusieurs livres de la littérature biblique. Jan est évangéliste, ça veut dire qu'il propage la parole de Dieu. Mais il faut aussi il ne suffit pas simplement de propager la parole de Dieu, encore est-il qu'il faut pouvoir enseigner la Bible. Et Jan fait ceci, il enseigne aussi la Bible. Jan a été directeur de chorale, il a aussi de nombreuses capacités dans la musique, etc., etc. Je ne veux pas trop en rajouter, parce que je sais qu'il est aussi modeste. Mais ce soir, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, et je pense que ça va être un plaisir pour vous tous aussi de l'écouter. Et c'est avec plaisir que je lui passe la parole. Jan.
Je préfère bien cet instrument-là. Tout à l'heure, au repas, j'ai répondu à la question « À quel âge j'ai ?» Je me suis trompé. J'ai dit 51, et j'ai réfléchi, j'ai pas 51, j'ai 52 ans. Pas une grosse différence. Mais aujourd'hui, j'ai 52 ans et j'ai des attentes de Dieu. J'attends des choses de Dieu et je sais que Dieu attend des choses de moi. Mais jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'attendais absolument rien de Dieu. Et je ne savais pas que Dieu attendait quelque chose de moi pour une raison simple. C'est que j'étais athée. Enfin, je pensais être athée. Parce que je ne savais pas qui était Dieu. Je ne savais pas même s'il existait. Je ne savais surtout pas qu'il avait parlé. Je ne savais pas qui était Jésus. Je ne connaissais rien. Donc je ne pouvais rien attendre de Dieu. J'aimerais répéter un peu ce qu'on a dit hier soir, parce que c'est lié à ce que je vais dire ce soir. Ce que j'attends de Dieu dépend de ce que je connais de lui, de ce que je sais de lui. De même, ce que j'attends d'un être humain, que ce soit mon épouse, mon frère, mon père, mon ami, ce que j'attends d'un être humain dépend de ce que je sais de lui, de ce que je connais de lui. Et plus je connais des choses, plus j'apprécie mon ami ou mon frère ou mon épouse, plus je passe du temps à communiquer avec cette personne, et plus mes attentes vont s'élargir et s'enrichir. Et plus je vais comprendre ce qui est attendu de moi en retour. Donc hier, nous avons vu que ce que nous pouvons attendre de Dieu fondamentalement, ce que j'ai dit hier soir, la première chose qui est la plus fondamentale que nous pouvons attendre de Dieu, c'est qu'il nous laisse libres. Ça, c'est la chose la plus fondamentale que nous devons attendre de Dieu. Jamais Dieu ne nous traitera comme un robot ou comme une machine ou comme une marionnette. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté de lui dire oui ou non. Il nous a donné la liberté d'aimer ou de ne pas aimer, de rechercher les choses spirituelles ou de ne pas rechercher les choses spirituelles. Ça, c'est la première chose fondamentale. Et la deuxième chose que j'ai dit hier, c'est que c'est vrai que Dieu m'a donné la liberté, mais il m'a aussi donné un autre don avec la liberté. Parce que la liberté, c'est un don, c'est un cadeau. Et de ce don, je ne peux pas faire n'importe quoi. Avec le don de la liberté, il m'a donné le don de sa parole. Pour que je connaisse le sens de cette liberté. À quoi me sert la liberté que j'ai de dire oui ou non, de faire des choix dans ma vie? Eh bien, elle me sert à grandir, à croître, comme une plante, comme un arbre, parce que c'est la loi de la nature, mais c'est aussi la loi spirituelle. On est là pour grandir. Elle me sert à grandir en sagesse, à grandir en bonté, à grandir en amour, à grandir en justice. La question « qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» en retour dépend aussi d'une autre question. Puisque la question d'hier, qu'est-ce que j'attends de Dieu, dépend de la question qui est Dieu, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Eh bien, la question qu'est-ce que Dieu attend de moi dépend d'une autre question, et cette question c'est qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Et dans cette question-là aussi, il faut se demander, est-ce que Dieu a dit quelque chose? Est-ce que dans sa parole, est-ce que par Jésus-Christ, les prophètes, Dieu a dit quelque chose qui concerne qui je suis? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que, de même que dans nos relations humaines, avec notre épouse, notre époux, nos amis, nos frères, nos parents, c'est dans le contact avec autrui que nous découvrons qui nous sommes. Surtout dans le contact avec autrui. Parce que si nous étions, dès notre naissance, placés, ce qui serait d'ailleurs impossible, on ne pourrait pas survivre, mais placés dans une situation d'isolement total, sans parents, sans personne pour nous nourrir, pour nous soutenir, pour nous faire marcher, pour nous éduquer, pourrions-nous savoir qui nous sommes? Non. Nous savons qui nous sommes par le contact que nous avons avec les autres, par cette relation que nous avons avec les autres. Alors si c'est vrai dans les relations humaines, c'est tout aussi vrai dans les relations avec Dieu. Tout aussi vrai. Et dans la mesure où nous n'avons pas de relation avec Dieu, il nous sera très difficile de savoir qui nous sommes. Or ça, c'est la grande question de la philosophie. Disons, depuis que la philosophie occidentale existe, 5 siècles avant Jésus-Christ, Socrate, la grande question c'est, qui est l'homme? Qui suis-je? Et cette question existe parce que Dieu existe. Si je me pose la question qui je suis, c'est parce que j'ai besoin d'un vis-à-vis, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à répondre à cette question. Et ça c'est une preuve de l'existence de Dieu, il y en a d'autres, mais c'en est une. J'ai besoin de cette réponse. L'homme a tellement besoin de cette réponse qu'il va passer toute sa vie à se poser cette question, qui je suis? Et il n'a pas besoin d'être un philosophe pour cela, car tout le monde se pose la question. On me dirait, moi je ne me pose pas cette question, j'ai d'autres choses à faire. Oui, c'est vrai. Mais dans les grands moments et dans les grands drames, face au deuil, face à une trahison, face à une injustice, là on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de tout ceci? À l'époque de Socrate, donc, avec des hommes comme Aristote aussi, Socrate, Platon, les Grecs commencent à se rendre compte, à ouvrir les yeux sur les insuffisances de la mythologie polythéiste. Ils se rendent compte, aussi avec, disons, l'avènement de la science, des mathématiques, de la raison, de la logique, que Dieu nous a donnée. On ne se l'est pas fabriqué, et il faut l'utiliser. Ils se rendent compte, mais nous ne sommes pas des dieux, mais nous ne sommes pas des demi-dieux. Et ils se rendent aussi compte, mais nous ne sommes pas non plus des animaux. Alors, qui sommes-nous? Qui est l'être humain? Et quel est le sens de sa vie? Et de cette question, qui suis-je, dépend la question, comment est-ce que je dois vivre? Comment je dois exister? Si je sais déjà au départ qui je suis, je peux quand même savoir un peu plus comment je dois exister. Mais il y a encore plus. Comment j'existe, en fait, la façon dont je vis concrètement tous les jours, va aussi m'aider soit à découvrir vraiment qui je suis, ou peut-être va pas m'aider à découvrir vraiment qui je suis, suivant ce que je vais faire, suivant les actes que je vais poser. Alors après 25 siècles de philosophie occidentale, depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, les existentialistes au XXe siècle, et maintenant les déconstructionnistes, avec 25 siècles de philosophie, on arrive maintenant à cette conclusion, on dirait, à cette découverte, ce n'est pas une découverte, cette découverte qu'on ne peut pas dissocier l'essence de l'homme de son existence. C'est-à-dire que les philosophes essentialistes, c'est-à-dire qui se posent la question « qu'est-ce que l'homme ?» et les philosophes existentialistes, « comment doit-il vivre ? De quelle façon doit-il utiliser sa liberté ?» Et bien finalement, ces deux questions, l'essence et l'existence, ce sont deux faces de la même pièce. De la même pièce. Ben, ce n'est pas une grande découverte. C'est comme si on était parti d'un bout du cercle, qu'on avait fait tout le tour, et qu'on revient au point de départ. Ce n'est pas une grande découverte. Pourquoi ? Parce que si on fait une lecture attentive des évangiles et même de la Bible, on s'aperçoit que l'écriture, la parole de Dieu, déjà montre l'interaction de ces deux choses. De notre essence en tant qu'être humain, notre nature humaine, et l'importance de notre existence, c'est-à-dire les actes que nous posons ont une importance. Donc d'abord, notre existence, comment nous allons vivre, ce que nous devons faire, ce que Dieu attend de nous, dépend en partie de ce que nous sommes, ou aussi on pourrait dire de ce que nous croyons être. Parce que ce que nous sommes vraiment et ce que nous croyons être, ce n'est pas forcément la même chose. Prenons l'exemple de Néron, l'empereur. Néron croyait être un dieu, à l'instar de Jupiter ou de Mars. Donc, puisqu'il pensait être un dieu, en tant qu'empereur, eh bien, il croyait, comme eux, détenir certains pouvoirs, notamment le droit de tuer, d'éliminer la vie humaine, comme bon lui semblait. Il pouvait aussi croire qu'il pouvait exiger l'adoration des hommes à son égard, en se prenant pour dieu. Donc, son comportement de tous les jours à Néron dépendait de ce qu'il croyait être. En agissant sur la base de cette conviction sur lui-même, « je suis un dieu », en agissant comme s'il était dieu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il croyait être encore plus un dieu. Plus il agissait comme un dieu, plus il s'imaginait être en essence, en fait, de par sa nature, un dieu. En fait, la question c'est, était-il un dieu, Néron, ou pas ? Je crois que tout le monde connaît la réponse. On sait très bien que Néron n'était pas un dieu. Qu'était-il ? Un homme, tout simplement. Néron était un homme, mais pas simplement un homme. Néron était en fait un homme corrompu et perverti. Il semble, d'après la tradition chrétienne, que Paul, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, tous les deux, ont pu comparaître devant Néron. Et nous allons supposer et mettre en scène cette situation. Qu'en effet, Pierre et Paul, l'un ou l'autre, ou les deux, ont comparu devant Néron et ont parlé de leur foi à l'empereur Néron. Supposons que Néron ait entendu l'apôtre Paul et qu'après son discours, après sa prédication, Néron ait réagi en disant « Mais il a raison, ce Paul. Je ne suis pas un dieu, ni même un demi-dieu. Je ne suis qu'un homme et je me suis égaré. Je me suis corrompu, j'ai ignoré la vérité sur moi-même. » Si Néron avait réagi comme ça, est-ce que vous croyez que sa vie aurait changé ? Est-ce que vous croyez que la vie des gens autour de lui aurait changé ? Est-ce que vous croyez que la vie dans l'Empire aurait changé ? Bien sûr que oui. Or, si Néron avait réagi comme ça, eh bien, Néron aurait accepté ce qu'on peut lire aujourd'hui concernant l'Évangile. Et moi, je vais présenter d'une manière très différente, parce qu'il y a beaucoup de manières qu'on pourrait présenter l'Évangile, vous savez. Il y a beaucoup de facettes à l'Évangile. Mais moi, je vais vous présenter d'une manière très particulière l'Évangile ce soir. Et ce que je veux dire est très important. Et si je le présente comme ça, c'est parce que, à cause de l'époque dans laquelle nous vivons. Vous voyez, nous vivons aujourd'hui dans une certaine époque qui n'a jamais existé. Nous avons derrière nous 20 siècles de christianisme et 20 siècles de pseudo-christianisme. Nous avons 20 siècles de philosophie aussi derrière nous. Alors nous allons présenter ce soir l'Évangile d'une manière un peu particulière. Et voilà les trois choses que Néron aurait appris de la bouche de Paul et qui auraient pu changer sa vie et peut-être le destin de l'Empire. Première chose que Néron aurait appris de Paul, si Paul avait prêché, et il semble que Paul a prêché devant Néron, il aurait appris de Paul, cette chose très, très importante, « Moi, Néron, j'ai été créé à l'image de Dieu. » Ou plutôt, « J'ai reçu de Dieu son image en moi. » Il y a en moi, en tant qu'homme, quelque chose de particulier à la ressemblance de Dieu, comme Paul le dit aux Athéniens dans le livre des Actes, chapitre 17. Et comme c'est dit dans la Genèse, Dieu créa l'homme à sa ressemblance. C'est quoi cette idée qu'il y a en nous l'image de Dieu? Ben, c'est simple. Ce n'est pas quelque chose de physique, car Dieu est esprit. Donc c'est quelque chose de spirituel. Or Dieu, qui est un être spirituel, il a des qualités spirituelles dont on parle dans la Bible. Dieu est amour, première chose. Dieu est sagesse. Dieu est justice. Dieu est bonté. Qu'est-ce que ça veut dire que dans Néron, il y a l'image de Dieu? Ben, ça veut dire ceci. Ça veut dire que Néron a la capacité, s'il le choisit, et s'il utilise sa liberté dans le sens où il le faut, Néron a la capacité lui aussi d'être bon. Lui aussi, il a la capacité d'être juste. Il a la capacité d'aimer Néron. Il a cette capacité. Première chose qu'il aurait entendue, c'est ceci. Deuxième chose qu'il aurait entendue de la part de Paul, eh bien, cette image de Dieu en toi, Néron, elle a été abîmée, détruite et, disons presque, mise à mort. Il en reste sans doute quelque chose, mais elle a subi bien des dégâts avec le temps. Et à cause de cela, maintenant, toi qui as reçu l'image de Dieu, maintenant, tu en es bien loin de cette image, et elle est bien déformée et abîmée, cette image. Troisième chose qu'il aurait appris de la bouche de l'apôtre Paul, c'est que Jésus est l'image de Dieu parfaite. Il est le Fils de Dieu. Et qu'il a manifesté en tant qu'être humain, parce que Jésus est un homme comme nous, ce que doit être la vie d'un homme à l'image de Dieu. Jésus l'a montré. Il nous l'a montré pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse le suivre en tant que disciple. Bien sûr, Jésus, nous savons qu'il est mort. Nous savons que Jésus est ressuscité, mais que par lui, et c'est ça qu'il aurait appris de Paul, nous pouvons retrouver cette image de Dieu qui est brisée, abîmée. Nous pouvons la retrouver, nous pouvons la restaurer, nous pouvons la faire revivre. Ou plutôt, Dieu peut la faire revivre en nous. C'est-à-dire cette capacité d'être comme Dieu dans ses qualités, dans sa bonté, dans son amour, dans sa justice, dans sa sagesse. Eh bien, cette capacité qui a été brisée, qui a été abîmée par Jésus-Christ, nous pouvons la retrouver. Jésus est venu la reconstruire, la restaurer, la rebâtir, la ressusciter. Et c'est ce que Paul écrit quand il écrit aux chrétiens de ces endroits, comme en Grèce, en Asie mineure, comme à Colosse. Il leur dit, mais vous êtes des chrétiens, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes ressuscités avec le Christ. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et le verset 9 et 10, application pratique. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme qui se renouvelle selon l'image de Dieu. Donc comme pour Néron, Dieu attend de nous la même chose. Il attend de nous que nous l'écoutions d'abord, Dieu, sa parole, la parole de son Fils, pour reconnaître qu'effectivement, il y a en nous l'image de Dieu. Nous avons été créés avec cette capacité fantastique de ressembler à Dieu dans ses qualités. Mais nous devons aussi reconnaître que cette image a été abîmée. Abîmé par la vie, abîmé par toutes sortes de raisons, et aussi reconnaître et comprendre que par Jésus, par la foi en lui, nous pouvons retrouver cette image de Dieu en nous. Parce que même si nous avons, et nous en avons tous, même si nous avons des élans de bonté, des élans d'amour, de générosité, de tout ce que vous voulez, c'est vrai que quand même nous sommes aux prises chaque jour avec le contraire. Nous sommes aux prises dans nos familles, dans le travail, dans toutes sortes de situations, avec le mensonge, la méchanceté, la haine. Et c'est difficile de conserver cette idée d'une image de Dieu en nous avec cette situation-là. C'est une lutte de chaque jour. Donc la première chose à faire que Dieu nous demande, c'est de reconnaître notre condition humaine, notre état un peu de délabrement. Ce n'est pas bien sûr de dire, comme cela a été dit en théologie parfois, nous ne sommes rien, nous sommes totalement pervertis à la naissance. Non, nous ne sommes pas totalement pervertis à la naissance. Mais cette image de justice, de bonté, d'amour, elle a été esquintée, abîmée, du fait qu'elle n'est plus même reconnaissable aujourd'hui. Mais il faut la retrouver. Il faut retrouver cela en nous. Donc, l'apôtre Jean nous écrit dans sa lettre, ou écrit à des chrétiens, leur disant qu'il est très important de reconnaître ce que nous sommes. La première lettre de Jean, chapitre 1, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Parce qu'il y a aussi des hommes qui, au contraire de cette théologie qui dit que nous sommes totalement pervertis, qui disent « Nous sommes totalement bons. » Et nous n'avons pas... Je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis bon. Je suis très bien, comme je suis. Certains pensent même être Dieu, comme Néron. Il y a aussi cela. Alors j'en dis, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À partir du moment où on reconnaît ces trois choses, l'image de Dieu en nous qui a été altérée, abîmée, et que cette image, elle peut être renouvelée, retrouvée en Jésus-Christ, à partir de là, où cette compréhension s'installe en nous, eh bien, toute notre existence change. Toute notre vie change. Et ce changement, on peut le résumer dans trois mots. Le premier mot, c'est abandon ou renoncement. Il y a des choses auxquelles on va renoncer. Ce qu'on peut trouver aussi dans ce texte que je lis plusieurs références ce soir, dans Colossiens chapitre 3, toujours, verset 8. « Maintenant, renoncez à ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Comment ça se fait que, quand j'ai compris ces choses, quand j'ai compris que en moi, il y a l'image de Dieu, mais qu'elle a été abîmée, et qu'elle peut être restaurée, et bien qu'il y a un changement qui se produit, et que je peux commencer à renoncer à ces choses. Pourquoi ? Ben c'est simple, parce que quand je retrouve cette idée de l'image de Dieu en moi, et quand je vois la réalité de ma vie, ce qui s'est passé, ben je n'ai plus envie de ces choses. J'ai envie de faire le ménage, comme on dit. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je veux agir pour que ça change. Je renonce. Je me rends compte non seulement que le mal m'a abîmé, mais peut-être aussi, je me rends compte que moi, par le mal que j'ai fait, j'ai abîmé l'image de Dieu dans les autres. Donc je vais changer mon rapport à moi-même et mon rapport avec les autres. Je ne peux que changer quand je reconnais cette chose extraordinaire en moi qui est l'image de Dieu. Je ne peux que changer. Si j'ai une grande maison où vivent mes grands-parents, et un jour je monte dans le grenier de cette maison, il y a toutes sortes de choses. Et par hasard, je découvre un tableau caché, complètement enfoui. Et je regarde ce tableau et il ne paraît rien du tout. Il ne paraît pas important, ce tableau. Et puis je commence à le dépoussiérer et le regarder de plus près. Et je me rends compte, il semble que ce tableau est un Rubens. Il semble. Ce tableau a une valeur inestimable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser dans le grenier comme ça à pourrir? Je vais le prendre avec moi. Et je vais l'emmener chez l'artisan, qui va pouvoir le restaurer, qui va pouvoir me montrer à quoi ce tableau devait ressembler à l'origine. C'est pour cela que ce changement implique un renoncement, un abandon. Ce changement implique aussi un renouveau. Je commence à me voir différemment, je commence à changer ma manière de penser. Colossiens 3, verset 10, que nous avons déjà lu, mais il dit... Que, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, à partir de ce moment-là, je ne peux plus mentir. Ou du moins, je vois les conséquences du mensonge. Je ne peux plus parler comme je parlais avant. Je ne peux plus être comme j'étais avant envers les autres. Tout a changé. C'est un renouvellement. Je commence à me voir différemment, mais je commence à voir les autres différemment. Par exemple, si je vois qu'il y a en moi effectivement l'image de Dieu, et dans mon prochain l'image de Dieu, je ne peux plus le considérer comme inférieur, comme un être inférieur parce qu'il est d'une autre race. C'est plus possible. Je ne peux plus profiter de lui comme je profitais avant. Je ne peux plus l'exploiter, le maltraiter comme je l'exploitais et le maltraitais avant. Parce que maintenant je vois en lui quelque chose de Dieu. Et comme Dieu, je peux apprendre à aimer mon prochain, à aimer autrui, même si celui-là ne m'aime pas. Même si celui-là me dit des méchancetés. Et faire ce que Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Troisièmement, ce changement est une résurrection. C'est comme un passage de la mort à la vie. Colossiens encore, chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, avec Jésus donc, vous êtes ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce tableau, quand je l'ai trouvé dans le grenier, il était méconnaissable. Il n'avait l'air d'être rien du tout. Après l'avoir amené chez l'artisan, l'artiste qui l'a restauré, quand je revois ce tableau, j'ai l'impression qu'il est ressuscité. C'est le même, mais il a retrouvé vie. Parce qu'il est revenu à ce qui devait être à l'origine, il a retrouvé vie. Il retrouve toute sa beauté. Et je sais maintenant ce que le peintre voulait représenter. Pendant des années, ce tableau était resté dans le grenier, méconnu. Personne ne savait qu'il était là. Personne ne connaissait son sens. Mais maintenant, ce tableau est destiné à une existence nouvelle, peut-être qui va être au Louvre, et que des milliers de gens vont venir le regarder. Parce qu'il est ressuscité, il a une vie complètement nouvelle. Eh bien, chaque être humain est comme ce tableau, perdu quelque part dans le grenier, que Dieu veut retrouver et restaurer à lui, pour que l'image originelle de Dieu qui avait été placée au départ puisse être enfin vue, admirée de tous. Nous voulons retrouver ce tableau tel qu'il était à l'origine. Et ce qui va se passer avec ce tableau, c'est tout ce qui aura été abîmé par le temps, tout, bien ça va être réparé, ça va être nettoyé, enlevé. Mais pourtant, ça fait longtemps que Rubens a vécu, ça fait des siècles. Alors, il y a quand même l'âge du tableau. Mais vous savez, un tableau n'est pas forcément de moins de valeur parce qu'il est plus ancien, au contraire, de même qu'un violon ou qu'un autre instrument de musique, s'il est bien entretenu. Si le violon il a 2 siècles ou 3 siècles, au contraire, il a plus de valeur et même la musique est plus belle, beaucoup plus belle. Donc le visage ravagé, le cœur ravagé de l'homme, ravagé par le mal, par une vie difficile, où on ne voit plus l'image de Dieu, ce cœur et ce visage peut embellir aussi par le temps, par la sagesse. Ce qui veut dire que quand nous comprenons ces choses, tout le mal que nous avons fait et qui nous fait souffrir, qui a fait souffrir les autres, tout ce mal-là, Dieu l'enlève, le pardonne. Tout. Et tout le bien que nous avons fait, parce que nous avons tous essayé de faire du bien, tout ce bien, finalement, on comprend son sens, sa signification. On comprend pourquoi on l'a fait. On comprend ce qui signifie ce bien. Alors, la réponse, ou la conclusion à cette question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je vais vous la lire. Je l'ai écrite. Voilà ce que je crois que Dieu attend de chacun de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de refléter son image dans nos vies, de lui ressembler. Comment? Par le travail du temps, l'existence, l'expérience, et surtout par l'œuvre de son Fils Jésus en nous. Oui, c'est vrai, c'est l'œuvre de Jésus, complètement. Mais nous avons à participer à cette œuvre. Parce que ce n'est pas comme un tableau, vraiment. Un tableau est passif, il ne fait rien. Ce n'est pas comme un tableau, vraiment. C'est comme si c'était un tableau qui pouvait aider l'artiste. Un peu comme dans les prophètes Jérémie qui parle d'un potier qui fait un pot, qui est le peuple d'Israël, et ce pot participe d'une manière étrange à l'œuvre du potier. Ça serait intéressant qu'un potier puisse parler à son pot et dire « Bon, tu veux une nuance ici ? Oui, oui, je veux. » Hop, le potier fait nuance. « Et là, qu'est-ce que tu veux, pot, là ? Tu veux que ça soit plus large ? Oui, je veux que ça soit plus large. » Oui, le pot participe. C'est étrange, mais c'est comme ça dans la Bible. Bien, nous participons aussi. Donc toutes les choses que nous avons fait de bien dans notre vie, dans le passé, Dieu les reprend et nous en donne un sens beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que ce que nous avons pu penser. Il n'y a aucune perte, aucun gâchis avec Dieu. Notre vie n'est pas perdue, pas gâchée. Par contre, tout ce que nous a fait souffrir, tout le mal que nous avons pu faire aux autres, c'est oublié, c'est nettoyé, c'est pardonné. C'est une résurrection. Voilà donc ce que je crois que Dieu attend de nous. C'est de vraiment refléter ce qu'il est, lui, à l'image, bien sûr, de Jésus, qui lui aussi a reflété qui était Dieu. Ça ne sera qu'un reflet imparfait, bien sûr, mais ça, c'est le but. C'est le but pour toute notre vie. Et je crois que c'est le but dans l'au-delà. Aujourd'hui, on a posé des questions aux gens. Et beaucoup de personnes ont dit, si je devais poser une question à Dieu, voilà la question que je poserais, qu'est-ce qui m'attend dans l'au-delà? Eh bien, je peux vous dire, donner une réponse ce soir. Ce qui nous attend dans l'au-delà, c'est la même chose qu'ici, c'est que nous devons nous attendre à refléter l'image de Dieu dans l'au-delà. D'une manière, bien sûr, différente, beaucoup plus grande et parfaite que maintenant. Mais c'est cela qui nous attend dans l'au-delà. C'est de refléter l'image de Dieu dans cette existence éternelle qui nous attend. Et ça, c'est une existence fantastique. Ça, c'est un appel à quelque chose de beaucoup plus créateur, de beaucoup plus extraordinaire que toute création que nous pouvons imaginer sur cette terre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous mette dans notre cœur la conviction qu'il y a en nous son image, mais qu'il mette aussi en notre cœur la conviction que nous avons abîmé cette image, et qu'il nous fasse découvrir Jésus qui est l'image parfaite de Dieu sur cette terre, afin que nous puissions avoir cette image dans notre cœur, et que puissions devenir, comme la Bible dit, le temple de son esprit. Que Dieu nous amène à cela, car ça c'est la joie parfaite. Merci.